Il est rare que les lectures d'un dimanche soient aussi unifiées et unifiées autour d'un thème, celui de la nature. On vient de l'entendre avec la parabole du semeur, mais aussi dans la première lecture où il s'agit de semences et cette comparaison avec la parole. Mais c'est surtout sur la lettre de saint Paul que j'aimerais méditer avec vous. Cette lettre est bien mystérieuse. Elle nous dit en somme que la création est en attente d'un salut, qu'elle gémit en attente d'une plus grande joie et d'une paix définitive. Et saint Paul fait la comparaison avec nous-mêmes, nous-mêmes qui avons reçu l'Esprit-Saint, nous aussi nous gémissons. Parce que nous ne sommes pas complètement dans l'adoption, dans l'alliance divine. Cette réalité mystérieuse, parce que comment envisager le salut de la création, d'un arbre, d'un animal, d'un insecte, que sais-je, d'un minéral, comment l'envisager? Mais le pape François nous donne une lumière particulière dans son encyclique Laudato Si, qui est le texte, pour l'un des textes majeurs de ce 21e siècle. Frères et sœurs bien-aimés, vous ne pouvez pas passer à côté de ce texte, qui, s'il est une encyclique, n'a rien de compliqué. Le pape François écrit de façon simple. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette encyclique, beaucoup de choses, mais qui se résume en trois mots. Tout est lié. Tout est lié. Il dit, le salut de la nature et de la création est lié au salut de l'homme et le salut de l'homme au salut de la création. Mais il va plus loin quand il dit, le gémissement de la création, c'est le gémissement des pauvres. Et le gémissement des pauvres, c'est le gémissement de la création. Il fait le lien entre l'accueil et l'attention, le soin apporté aux plus petits, à ceux qui sont dans une situation de plus grande fragilité, à cause de l'âge, à cause de leur situation économique, de santé, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont marginaux. Oui, l'attention que vous portez à ceux qui sont plus dans la fragilité est la même attention que vous devez porter à la création qui vous entoure. Et cette réalité vraiment prophétique et nouvelle m'a donné, comme chargé des travaux dans l'abbaye où je suis, à l'abbaye d'Ourscan, dans la Picardie profonde, alors que nous sommes en train de penser à un très gros chantier de restauration d'un bâtiment détruit durant la guerre de 14, eh bien, nous avons pensé, entre frères, qu'il serait bon que les entreprises qui vont être sollicitées aient un engagement à la fois social et environnemental. Environnemental, c'est facile, d'une certaine manière. Il suffit de calculer la trace carbone, de voir si les différents matériaux ont fait le tour de la Terre ou sont plutôt dans la proximité, etc. Mais la dimension sociale est certainement la dimension la plus compliquée. La plus compliquée. Quand on en parle aux entreprises et qu'on leur dit, ben voilà, nous, on veut tant d'heures d'insertion à l'intérieur de ce chantier, sinon vous n'aurez pas le marché. Ça fait partie des clauses du marché, des clauses sociales. Autant pour les clauses environnementales, comme c'est pratiquement passé dans la société comme quelque chose de bénéfique, et que l'écologie, et on a vu lors des dernières élections municipales, est quelque chose qui est d'une manière ou d'une autre assumé par la grande majorité de nos concitoyens, la question sociale est beaucoup plus compliquée. Parce que accepter de donner des heures pour des personnes qui sont en précarité, parce qu'ils sont étrangers, ils ne parlent pas notre langue, parce que ce sont des ce repris de justice et qu'ils ont un bracelet encore à la cheville, parce que c'est des personnes qui ont perdu l'expérience du travail depuis des années et de ne pas avoir d'horaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et les entreprises le disent, ça nous ennuie. Ils disent pas, ils disent un autre terme, mais bon, ça nous ennuie. Parce qu'évidemment, c'est prendre soin de celui qui n'est pas efficace aux yeux des mondes. Qu'est-ce que veut l'entreprise ? Eh bien, il veut la personne qui, eh bien, évidemment, respecte les horaires, soit performant, donne toute satisfaction. Et c'est vrai que accueillir dans un chantier des personnes en fragilité sociale, c'est prendre soin et ça prend plus de temps. Ça prend plus aussi d'argent, parce qu'il faut les accompagner, ils sont moins autonomes. Mais au fond, ce soin du plus pauvre et ce soin de la nature, n'est-ce pas la terre au centuple que le Seigneur nous rappelle dans la parabole du semeur ? Est-ce que la fécondité d'un projet, là c'est un projet matériel, n'est pas liée aux soins que l'on apporte les uns aux autres et aux soins de la création entière ? Oui, on le voit bien par exemple dans le synode sur l'Amazonie, le pape François a voulu attirer l'attention de la communauté internationale en disant « Regardez ce qui se passe en Amazonie, pour nous c'est loin, etc. Mais regardez ce qui se passe, la création est piétinée et les peuples indigènes eh bien, sont bafoués. Les questions de santé, eh bien, on voit bien avec le virus qui est très puissant au Brésil, eh bien, ce sont ceux, eux, les peuples indigènes, qui en dernier bénéficient des soins. Et comme par hasard, leur terre, c'est la plus exploitée, la plus blessée, écorchée. Alors oui, frères et sœurs bien-aimés, je trouve très prophétique ce grand texte de Laudato Si, cette encyclique du pape François, parce qu'il nous rappelle l'urgence du lien, que tout est lié, nous sommes liés les uns aux autres, nous sommes liés aussi à l'Église du ciel, la communion des saints, mais nous sommes liés aussi aux animaux, nous sommes liés aux végétaux, aux minéraux, et le pape François rappelle dans un passage, il dit « le sacrement, au fond, assume toute la création, le pain et le vin, assume toute la création dans l'Eucharistie. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à prendre davantage soin, et nous en avons plus pris conscience à travers cette crise sanitaire que nous traversons encore, même si ici vous avez été moins touchés que dans l'Oise. Mais je pense qu'au plan national, il y a quelque chose qui s'est passé et qui nous dit qu'on ne peut pas dire « je » sans dire « tu », on ne peut pas dire « tu » sans dire « nous ». Oui, l'accueil du plus pauvre, dans quelque projet que ce soit, va avec l'accueil de la protection de la nature et réciproquement. Sinon, il y a un risque de ne pas aller jusqu'au bout de cette bonne nouvelle et de cette prophétie que nous annonce le pape François. Oui, c'est bien vu et ça caresse dans le sens du poil les donateurs que de dire qu'on va dans l'écologie, mais est-ce qu'au fond nous ne sommes pas invités à aller plus loin dans l'accueil de celui qui est marginal et dont il faut s'occuper, et pour l'entreprise qui en aura la charge, c'est peut-être une charge plus complexe, mais ça lui donne aussi une autre vision de son travail. Alors que je suis très en contact avec les jeunes professionnels, 25-35 ans grosso modo, je vois combien ils ont besoin de sens à leur travail. Et donner ce sens-là d'une double protection, d'un double soin de la personne humaine comme de la nature, c'est s'attirer les compétences les plus brillantes. Parce que plus une personne est formée, plus elle a envie de donner du sens à son travail. Et plus on a affaire à des personnes fragiles qui ne sont pas habituées au monde du travail, plus il faut des gens performants pour s'en occuper et les emmener plus loin. On le sait bien, cette restauration de cet édifice, c'est pas seulement remettre des murs debout, c'est remettre des personnes debout. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités, et c'est la fécondité de notre vie, cette terre du centuple, nous sommes invités à revisiter nos liens. Revisiter nos liens parce que, précisément, c'est là que nous portons du fruit. Et on voit bien qu'en nous, il y a quelque chose qui gémit, parce que nous sommes dans un processus de conversion. Saint Paul le dit très bien, nous gémissons et la nature gémit, et parce que l'homme se tournera vers Dieu, qu'il accueillera la limite, qu'il n'est pas tout puissant, que l'argent n'est pas tout puissant, alors il prendra soin aussi de ses semblables et de la nature. Certainement, nous sommes invités à travers cette encyclique du pape François à nous tourner vers ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, ce désir de communion. Ce désir de communion qui, au fond, fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais certains disent, la difficulté avec la pollution, etc., ça vient de la personne humaine elle-même. Le problème, c'est l'homme. C'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, d'avoir mis l'homme au centre de la création. Voilà le problème, certains disent. Et des gens qui sont assez excessifs vont même à dire, diminuons le nombre de personnes humaines et vous verrez, la nature reprendra ses droits. C'est la question de Malthus. La question de Malthus est une vraie question. Malthus dit, ben voilà, s'il y a un gâteau qui fait 100 et qu'on est 10, tout va bien. S'il fait 100 et qu'on est 100, ben il y en a beaucoup moins, 10 fois moins. Et si on est 1000 et 1 million, on n'aura que des miettes. Donc diminuons le nombre de personnes humaines. La question de Malthus est une vraie question. Mais nous, comme chrétiens, nous avons une vraie réponse. Ce n'est pas la quantité des personnes, le nombre de personnes habitant la terre qui est le problème, c'est l'égoïsme, c'est l'amour de l'argent, vouloir se servir de la nature et des personnes les plus fragiles pour avoir un bénéfice maximum. C'est notre cœur qui est loin de Dieu. Voilà le vrai problème. Peut-être on pourra être 10 milliards d'êtres humains sur terre, mais il n'y aura peut-être pas 10 milliards de voitures, certainement. J'ai peut-être, pour terminer, deux regrets par rapport à cette encyclique. Deux regrets parce que à aucun moment il n'est parlé du mariage indissoluble ni de la méthode naturelle de régulation des naissances. Il parle évidemment de la défense de la vie, le pape François, parce que ça fait partie de l'écologie, la défense du vivant. Et donc, il dénonce avec force l'avortement. Mais je me dis, si tout est lié, est-ce qu'au fond, ce lien qui unit les époux n'a pas à voir aussi avec la protection de la nature et la protection du plus pauvre? Est-ce que là où on apprend à prendre soin l'un de l'autre, n'est-ce pas au cœur même de la famille? Et des familles séparées, c'est aussi deux appartements pour les enfants, des enfants qui sont comme des balles de ping-pong entre papa et maman, et donc évidemment beaucoup de transport, le coût écologique est considérable, sans parler du coût affectif. Mais la méthode naturelle de régulation des naissances est aussi intéressante. De dire que quel est le premier contact que l'on a avec la nature, si ce n'est notre propre corps, et que les époux sont un écosystème fragile dont il faut prendre soin, être attentif à son propre corps, être attentif au corps de l'autre, savoir mesurer, tempérer les unions intimes des époux, n'est-ce pas aussi savoir accueillir la limite qui est la condition de toute défense de la nature ? Le problème de la pollution, le problème de la déforestation, c'est certainement parce que on ne met pas de limite à nos désirs. On est dans une toute-puissance par rapport à nos désirs, à notre désir de confort, nous qui sommes dans une société développée, à notre désir de bien-être. On ne veut pas mettre de limite. Le corps n'est-il pas ce pédagogue qui nous apprend précisément à accueillir la limite à l'intérieur même de l'union des époux, mais aussi pour chacun d'entre nous dans la maîtrise de nos sens, de nos désirs. N'est-ce pas cette première nature, cette première création, le corps qui nous est donné pour pouvoir accueillir toute forme de soin et toute forme d'attention? Parce que le corps, c'est aussi ce plus pauvre dont on n'a pas toujours pris soin et qui va se dégradant. Alors oui, frères et sœurs bien-aimés, tout est lié, je le crois très profondément. Alors si le pape François n'a pas jugé bon de mettre ces deux éléments-là, il a certainement ses raisons. Si moi, simple prêtre, j'y ai pensé, vous imaginez qu'en haut lieu, on y a pensé. C'est un texte aussi politique qui a été donné lors de la COP21 et donc qui s'adressait à tous les chefs d'État réunis en ce lieu, à Paris. Et donc, évidemment, ce sont deux sujets assez clivants. Mais bon, moi, je trouve qu'il y a sens, ça fait sens de, à la fois, unir à cette défense des pauvres et de la nature, la défense du mariage indissoluble et des méthodes naturelles de régulation des naissances. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à, oui, à travers ces lecture qui nous parle de la création, alors que nous sommes au début de l'été et avec où les travaux des champs vont battre leur plein, nous sommes invités à avoir un regard plus contemplatif sur notre prochain proche dans notre famille, mais aussi plus contemplatif sur ce qui nous entoure, sur ce que nous aimons et ce que nous avons du mal à aimer, sur cette création qui est un don de Dieu, et à mesure que nous nous tournons vers le Seigneur, nous allons aussi tourner le monde entier vers lui. Une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Amen.